Séoul au jour le jour. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre magazine de société, Séoul au jour le jour. Souvenez-vous, le voyage à l'étranger était impossible à cause de la pandémie de Covid-19 il y a seulement quelques années, difficilement imaginable en cette période de vacances. En effet, aujourd'hui, les voyageurs ont plus de liberté d'aller où ils veulent et ce phénomène ne se limite pas aux adultes. Il y a une augmentation du nombre d'étudiants à l'étranger, notamment chez les adolescents. Selon un rapport sur le sujet publié par l'Institut coréen de développement éducationnel, le KEDI, le nombre d'élèves sud-coréens à l'étranger a franchi les 5000 pour la deuxième année consécutive. En prenant en compte les écoliers, les collégiens et les lycéens, le chiffre a atteint 5603 en 2024, une légère hausse par rapport à l'année précédente, où ils étaient 5551. Avant la propagation de la Covid-19, ce chiffre était bien plus élevé, plus qu'en 2019. Plus de 9000 élèves ont quitté le pays pour l'étranger. Avant de diminuer, passant de 8961 en 2020 à 3665 en 2021, puis à 3604 en 2022. C'est en 2023, à la fin de la pandémie, que ce nombre repart à la hausse en atteignant les 5000. Alors, vers où ces élèves se dirigent-ils? Parmi les destinations les plus prisées, on trouve les pays anglophones ou bien les pays munis d'établissements scolaires internationaux et anglophones. En 2024, le Canada arrivait en tête avec 1424 élèves, suivi par les États-Unis, puis la Malaisie, la Nouvelle-Zélande et les Philippines. Les deux pays nord-américains sont les plus prisés depuis 5 ans et ont recueilli respectivement 7138 et 6962 élèves sud-coréens entre 2020 et 2024. Un véritable duo incontournable en matière d'études à l'étranger. En séjour dans un gîte, faut-il faire soi-même le ménage? Une question qui a suscité la controverse sur les réseaux sociaux en Corée du Sud cet été. Tout a commencé le 13 juin avec un post rédigé par un internaute qui s'est présenté comme propriétaire d'un gîte. Ce post a critiqué ouvertement la pratique du secteur, consistant à demander aux clients de faire le ménage, dont le tri sélectif, la vaisselle et le rangement du linge de lit. La publication a enregistré plus de 2,2 millions de vues et 1600 commentaires. Elle a suscité de vives réactions, notamment de la part des clients. « J'avais toujours du mal à comprendre pourquoi les gîtes demandent de faire le ménage alors qu'ils coûtent plus cher qu'un hôtel », dit un internaute. Un autre témoigne « Je n'y vais plus parce que j'ai l'impression de partir en vacances pour faire des corvées ». En réalité, la remise en ordre par les clients est aujourd'hui demandée dans la plupart des gîtes. Certains vont jusqu'à interdire les plats à forte odeur. Mais pour pas mal d'internautes, il ne s'agit que d'une simple question de politesse élémentaire. C'est une question de conscience. Je n'ai aucun problème à trier mes déchets, écrit l'un d'eux. Nettoyer la place où l'on a été, c'est simplement une politesse de base, affirme un autre. Face à la controverse, les experts rappellent que cette pratique reste dans la sphère culturelle et personnelle, alors que les dispositions légales et réglementaires en vigueur n'imposent aucune obligation de nettoyage aux clients. Maître Ji Se-hun précise « Dans les hôtels et les motels, selon la pratique professionnelle, c'est l'établissement qui prend en charge le nettoyage. En revanche, dans les gîtes, la cuisine individuelle et l'accueil de grands groupes élargissent le champ du rangement, ce qui peut créer une différence quant à la responsabilité du ménage. Selon plusieurs avis, pour réduire les litiges, il serait nécessaire de prévoir, à l'avance, les conditions générales d'utilisation et d'instaurer des pratiques standardisées. Yi Seok-ho, professeur d'urbanisme et de tourisme à l'Université nationale ouverte de Corée, propose d'élaborer des conditions générales standardisées sur un minimum de remise en ordre afin de diminuer les risques de conflit. De son côté, Maître Chun Bin-sung explique « Lors de la conclusion du contrat, les règles d'utilisation doivent être précisées et les clients doivent les vérifier et les approuver au préalable. S'ils ne les acceptent pas, il est préférable qu'ils renoncent à l'hébergement. Ce qui compte avant tout, c'est un esprit de considération mutuelle. » Les mois de septembre et d'octobre sont les plus prisés pour les demandes en mariage en Corée du Sud. Avec l'approche de l'automne, de nombreuses postes de demande fleurissent sur les réseaux sociaux. Un point commun, les hôtels et les produits de luxe sont présents à chaque fois. Une étude menée par l'équipe du département des sciences de la consommation de l'université Songshin affirme que c'est une véritable tendance chez les jeunes. Selon leur analyse de 128 posts Instagram publiés en septembre 2024, le lieu préféré des jeunes sud-coréens pour se demander en mariage était un hôtel, avec 42% de représentation. Un sac de luxe a été le cadeau le plus courant. La demande en mariage aux parfums luxueuses devient une étape importante chez les jeunes. Selon un sondage réalisé auprès de 1000 personnes âgées plus de 18 ans en 2025 sur la perception du mariage, mené par Hankook Research, 45% d'entre eux indiquaient qu'un événement spécial était nécessaire, avec un taux élevé de 55% chez les moins de 30 ans. Une demande en mariage de luxe implique des dépenses élevées. Un package dans un hôtel 5 étoiles coûte plus de 1 million de won, soit 617 euros, tandis qu'un service de décoration de la chambre avec des ballons et des fleurs coûte plusieurs dizaines de won, soit entre 100 et 600 euros. Les experts analysent que cette pratique combine les désirs ostentatoires des jeunes de montrer leurs dépenses sur les réseaux sociaux et une coutume matrimoniale qui associe le mariage à la réputation sociale. Toutefois, les avis sur cette tendance varient. Yi Eun-hui, professeur à l'université Tinha, s'inquiète d'une aggravation possible du sentiment de privation chez les jeunes qui doivent renoncer à l'amour et au mariage, les percevant comme adéquats pour ceux qui détiennent un emploi stable. Chetter, professeur à l'université Sukmyeong, réfute, affirmant que la consommation individuelle est une question de satisfaction personnelle. Selon lui, il n'y a pas de mal tant qu'ils ont les moyens économiques.
Vous avez aimé, vous avez détesté, vous avez adoré. Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french@kbs.co.kr.
Vous écoutez Séoul au jour le jour et l'édition de ce jeudi 21 août 2025 vous est présentée par Bin Hesang. La lutte contre l'obésité connaît une nouvelle ère. Le principal obstacle au régime reste l'appétit, mais des traitements anti-obésité permettent désormais de le contrôler par l'injection d'une molécule minceur. La plus connue est le Wegovy, du danois Novo Nordisk. Mis sur le marché en Corée du Sud en octobre dernier, il a déjà atteint plus de 70% de parts de marché au premier trimestre. De nombreuses célébrités affirment l'utiliser et présentent leurs résultats comme un succès. Dans cette course folle, un nouveau concurrent américain a été lancé la semaine dernière dans les hôpitaux et cliniques du pays. Aux États-Unis, Mounjaro, Dilly Lily, dépasse déjà son rival en termes de ventes. L'effet sur la perte de poids apparaît en effet plus marqué. Comment ces stylos injectables font des miracles contre l'obésité? La clé est une molécule inspirée de l'hormone régulant le taux de glucose sanguin et diminuant l'appétit. S'y ajoute Mounjaro, une autre molécule analogue qui prolonge la sensation de satiété et réduit davantage l'appétit. Selon une étude européenne, les patients ont perdu en moyenne 21% de leur poids avec ce traitement, contre 15% avec Wegovy. Face à cette concurrence, Novo Nordisk a annoncé une forte baisse des prix. Le stylo de plus faible dosage passe ainsi d'environ 228 à 136 euros. Un responsable du laboratoire a précisé que la priorité reste l'accès et la continuité des soins pour les patients obèses. Ce principe s'applique également à la fixation du prix du traitement. Pourtant, les effets secondaires restent nombreux. Nausées, diarrhées, constipation, douleurs abdominales ou déshydratation sont fréquentes. Et puisque l'un des effets secondaires majeurs est la perte de masse musculaire, il est essentiel de faire de l'exercice. Autre sujet d'inquiétude, les abus. Ces traitements amaigrissants doivent être réservés aux personnes ayant un IMC supérieur à 30 ou à partir de 27 en cas de maladie chronique, comme le diabète ou l'hypertension. À Séoul, il semble pourtant facile de les obtenir sans respecter ces critères. Des témoignages circulent sur Internet évoquant des prescriptions pour de futurs mariés avant le mariage. Les spécialistes mettent en garde. En dessous d'un IMC de 27, ni l'efficacité ni la sécurité ne sont établies. Prescrire dans un tel contexte revient à agir sans données solides, d'où la nécessité d'une grande prudence. Le sommeil est le meilleur remède, dit-on souvent. Pourtant, les nuits sans repos s'allongent en Corée du Sud. Cette privation alimente un nouveau marché en plein essor, la sleepnomics. Ce néologisme associe le mot anglais sleep et economics pour désigner une nouvelle tendance de consommation autour du sommeil. Les Sud-Coréens font partie de ceux qui dorment le moins au sein de l'OCDE. La durée moyenne de leur sommeil est de 6h58, soit près d'une heure et demie de moins que la moyenne, fixée à 8h27. Selon le Service national d'assurance maladie, entre 2018 et 2022, le nombre de patients souffrant de troubles du sommeil a augmenté de près de 29% et les dépenses liées aux soins ont bondi d'environ 87%. Face à cette dette de sommeil, les Sud-Coréens se tournent vers des somnifères, mais aussi vers de multiples produits et services. Parmi eux, des boissons enrichies en extraits naturels favorisant l'endormissement, des montres connectées analysant les cycles de sommeil, ou encore un oreiller intelligent détectant les ronflements et ajustant automatiquement la position de la tête. Grâce à cet engouement, le marché a été multiplié par plus de 6 entre 2011 et 2022. Mais les experts préviennent, ces solutions n'agissent pas sur les véritables causes du problème. L'insomnie résulte aussi d'une utilisation excessive des smartphones, de la caféine, d'horaires irréguliers, mais surtout de pression professionnelle et de culture d'entreprise très hiérarchique. Améliorer l'environnement de vie et favoriser un endormissement naturel reste des approches plus saines. Un spécialiste britannique rappelle également qu'une obsession excessive pour bien dormir peut avoir l'effet inverse. Selon lui, ceux qui dorment le mieux sont souvent ceux qui, une fois fatigués, s'allongent et s'endorment sans inquiétude. L'exigence rigide de dormir 8 heures ou de suivre un rituel précis avant de se coucher peut devenir une source de stress et nuire au repos. Pain, riz blanc, beurre, fromage, viande rouge, quel est leur point commun ? Ils accélèrent le vieillissement. Or, de plus en plus de jeunes cherchent à ralentir ce processus. Sur les réseaux sociaux, un nouveau mot circule, le vieillissement ralenti, le slow aging en anglais. Les contenus se multiplient, surtout autour des régimes alimentaires. À la place du riz blanc, on mélange de l'avoine, du riz complet ou des lentilles. L'huile d'olive remplace l'huile de soja et l'allulose prend la place du sucre. Autrefois réservée aux seniors, ces pratiques sont désormais mises en avant sur Internet. Elles deviennent même un objet de fierté pour les jeunes générations. Mais pourquoi ces jeunes s'inquiètent-ils déjà du vieillissement ? Ji Hyun-ju, salarié de 26 ans, explique. Lors de mon dernier bilan de santé, ma glycémie à jeune était élevée. J'ai donc eu envie de mieux contrôler mon alimentation. Autour de moi, beaucoup parlent du risque de diabète chez les jeunes. Les chiffres confirment cette tendance. Selon le service d'examen et d'évaluation de l'assurance maladie, le HIRA, le nombre de diabétiques dans la vingtaine a bondi de près de 48% entre 2018 et 2022, une hausse la plus forte parmi toutes les tranches d'âge. Mais un autre facteur joue également, la culture du partage. Les jeunes adeptes publient leur journal alimentaire, échangent des recettes saines et s'offrent des produits biologiques. Pour eux, le régime slow eating devient un véritable style de vie. Sur le plan commercial, cet engouement attire l'industrie agroalimentaire. Le secteur des sauces à teneur réduite en sucre est notamment en plein essor. Les grands groupes coréens comme CJ Jeiljedang, Dongwon Homepodu ou Sempio élargissent leur gamme. Après avoir lancé des snacks et des boissons faibles teneur en sucre, ils investissent désormais dans les sauces traditionnelles coréennes comme gochujang, une pâte de piment, ou samjang, une pâte de haricots fermentés. Dongwon Homepodu souligne que ces sauces allégées en sucre ont généré 15 milliards de won, environ 9,3 millions d'euros de ventes l'an dernier, soit 2,6 fois plus que l'année précédente. Et la tendance dépasse la Corée. États-Unis, Australie et Canada voient aussi monter la demande pour ces produits faibles en sucre et en calories. Reste à savoir qui remportera la bataille des sauces allégées, un marché promis à un développement continu. Avant de passer à 1, 2, 3 K-Sport, écoutons ensemble Candy de H.O.T.
K-Sport, découvrez tous les jeudis les dernières actualités sportives de la semaine avec Baptiste Mourigal. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre chronique hebdomadaire autour de l'actualité sportive. Nous débutons notre édition de ce soir avec du billard et une médaille d'or aux Jeux mondiaux. Alors vous êtes prêts ? 1, 2, 3, K-Sport ! Fait historique pour la Corée du Sud, Cho Myung-woo est devenu le premier Sud-Coréen à remporter une médaille d'or aux Jeux mondiaux dans la discipline du carambol à trois bandes. Jeudi dernier à Chengdu en Chine, le numéro 1 mondial s'est imposé face à l'Égyptien Sem Sidom sur le score de 40 à 22. Cette victoire lui permet de réaliser un autre exploit inédit, devenir le premier Sud-Coréen à accomplir le grand chelem en billard carambol. Il a ainsi remporté les championnats d'Asie, la Coupe du Monde, les championnats du monde et donc les Jeux mondiaux. Explication simple et rapide de cette discipline qui se joue sur une table sans poche avec trois billes, une blanche, une jaune et une rouge. Le billardiste doit faire des caramboles, c'est-à-dire que sa bille blanche doit toucher les deux autres dans le même coup. Petite particularité, la bille blanche doit rebondir au minimum sur trois bandes. Réaliser cette performance donne un point, le premier à atteindre 40 remporte la partie. Enfin, petit mot sur les Jeux mondiaux, la Corée du Sud a établi son record de médailles avec 5 en or, 2 en argent et 7 en bronze. Basket à présent, fin de parcours pour l'équipe masculine sud-coréenne à la Coupe d'Asie. Elle s'est inclinée la semaine dernière face à la Chine en quart de finale. Cette défaite 71 à 79 marque un échec dans sa tentative de retrouver le dernier carré 8 ans après sa troisième place. Les Chinois ont été meilleurs dans tous les compartiments du jeu et ont même dominé les Sud-Coréens dans leur point fort, le tir à 3 points. Ces derniers sont totalement passés à côté de leur rencontre avec un taux de réussite de seulement 12,5% contre 28% pour leurs adversaires. On continue avec du tennis féminin. Kim Yoo-jin a remporté ce week-end son premier titre en simple sur le circuit professionnel en s'imposant lors du tournoi ITF de Singapour. En finale, la Sud-Coréenne, 893e joueuse mondiale, a dominé la Japonaise Arakawa Haruna, 532e mondiale, en 2-7, 7-6, 6-4. Après la rencontre, la joueuse de 23 ans a évoqué les émotions de cette finale particulière et sa nervosité de faire face à une joueuse qu'il avait battue une semaine auparavant. Une nervosité qui ne l'a finalement pas empêchée de s'imposer avec brio. On enchaîne avec du golf. Park Sang-yeon a signé son retour dans le top 10 d'un tournoi LPGA pour la première fois depuis 6 ans. La golfeuse sud-coréenne a terminé 7e ex aequo du standard Portland Classic. Park a livré une performance remarquable avec une carte totale de 272 coups, soit 16 sous le par. Lors du dernier tour, elle a notamment réalisé un eagle et 7 birdies, une performance qui pourrait être synonyme de renaissance. En effet, elle a débuté de manière tonitruante sa première année sur le circuit américain en 2017 avec 2 succès dont l'US Open. Cette année-là, elle avait même accompli l'exploit rarissime d'être élue simultanément joueuse de l'année, rookie de l'année et reine des gains. Park a ensuite confirmé l'année suivante avant de devenir en 2019 numéro 1 mondial. Cependant, à partir de la fin 2019, la golfeuse de 31 ans a entamé une descente aux enfers. En 2021, elle a même connu l'humiliation de rater le cut dans 10 tournois sur 19, puis une blessure au poignet l'a écartée longuement des greens. Le début de saison 2025 n'avait pas démarré de la meilleure des manières, avec seulement 2 cuts passés sur 11 tournois disputés. Un mot d'olympisme pour terminer. Le Comité international olympique a franchi un pas symbolique important à l'occasion du 80e anniversaire de la libération de la Corée. Des explications sur le contexte historique de la colonisation japonaise ont été ajoutées dans la biographie de plusieurs athlètes coréens, dont Nam Sun-liang, médaillé de bronze au marathon des Jeux de Berlin en 1936. Sur son site officiel, le CIO présente désormais Nam sous son nom japonais, Nam Cho-ryu, tout en mentionnant sa véritable identité, Nam Sun-liang. Il précise également que Nam a été enregistré sous un nom japonais car la Corée était alors sous domination nippone. 7 autres sportifs coréens ont également eu leur biographie modifiée avec ses ajouts explicatifs. On retrouve notamment le basketteur Lee Sang-ku et le boxeur Lee Kyu-won. A noter que jusqu'à présent, seul Sun Ki-jung, médaillé d'or au marathon des Jeux de Berlin, bénéficiait d'une explication contextuelle avec son nom coréen.
Voilà, c'était la fin de notre émission Séoul au jour le jour du jeudi. C'était Bin Hae-sung et Yu Hana à la rédaction, Bin Hae-sung au micro et Kim Hong-ju à la réalisation. Merci de nous avoir suivis et je vous souhaite une excellente fin de semaine à l'écoute de KBS World Radio.